9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. Comment ça se passe quand on est journaliste et que l'on couvre la guerre en Ukraine? Manon Kérouille-Brunel et Alvaro Canovas y étaient pour Paris Match. Ils vont tout nous raconter. Je recevrai ensuite Céline Guivarch. Elle fait partie des 300 scientifiques qui ont rédigé le dernier rapport du GIEC sur l'évolution du climat paru lundi dernier. Est-ce qu'on peut encore limiter la hausse des températures à 1,5 ou 2 degrés d'ici la fin du siècle? Elle va nous le dire. Et l'on terminera l'émission par le refus de Kylian Mbappé de participer à des opérations commerciales de l'équipe de France. Une petite révolution. Vincent Duluc va nous expliquer pourquoi.
Europe 1.
Manon Kérouille-Brunel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter. Alvaro Canovas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes photographe à Paris Match depuis 30 ans maintenant. Vous étiez tous les deux en Ukraine pour couvrir la guerre. On a envie de savoir comment travaillent les journalistes là-bas et les difficultés qu'ils rencontrent pour raconter ce conflit. Alors, première question, est-ce que cette guerre est différente des autres?
Moi, je trouve qu'elle ressemble un peu à toutes les autres, sauf le fait que la ligne de front est a priori inaccessible à la presse. Les forces ukrainiennes ne souhaitent pas amener de photographes, de caméramans, de journalistes sur la ligne de front pour probablement, et moi je peux les comprendre, ne pas révéler leur position puisqu'ils jouent de leur connaissance du terrain pour prendre l'avantage sur les forces russes et qu'aujourd'hui, avec les moyens technologiques qu'on connaît, et on peut tout à fait repérer d'après une photo, d'après un bout de vidéo, d'où est-ce que ça a été fait et ainsi révéler leur position. Donc ça a changé et c'est assez inhabituel.
Manon ?
On a effectivement tenté de le faire quand on était à Kharkiv la deuxième semaine de notre reportage, où on a travaillé une source militaire depuis longtemps. On nous a accordé la permission de nous rapprocher, mais on était quand même encore à 4 km. Et déjà à ce moment-là, ça tapait très fort. On a eu une alerte, on a dû courir avec les militaires ukrainiens aux abris. Donc il y a effectivement, je pense, le souci de ne pas révéler des détails stratégiques, mais aussi le besoin de protéger la presse et de ne pas être non plus l'armée ukrainienne, cette armée qui mettrait en danger en fait les représentants des journaux étrangers qui seraient sur place. C'est une responsabilité qu'ils ne peuvent pas endosser non plus.
Est-ce que vous pouvez vous déplacer librement à part ça, ou est-ce que vous êtes toujours embedded, comme on dit?
Non, on n'est pas du tout en embed. On a une carte de presse locale qui est vraiment essentielle pour pouvoir circuler. Elle est demandée à chaque barrage militaire. Elle est conditionnée, cette carte de presse, à l'envoi préalable d'une lettre des rédactions et de notre carte de presse française. Et je pense qu'ils font un vrai travail de recherche et d'investigation parce qu'il y a eu un nombre de journalistes incroyables qui ont tous débarqué au même moment. Et il y a une envie et un besoin, encore une fois, on peut les comprendre de la part des Ukrainiens, de contrôler quand même qui fait l'information et comment les médias vont s'organiser en Ukraine.
Alvaro ?
Oui, je pense qu'il nous laisse pas mal de liberté, mis à part le fait de ne pas accéder aux lignes de front, mais on peut circuler dans le pays assez librement. En contrepartie, il faut cette carte de presse. Et oui, on est probablement, il y a eu une enquête pour savoir, je crois qu'il y a eu des tentatives d'infiltration de gens qui considèrent comme leurs ennemis sur des cartes de presse qui avaient été falsifiées. Voilà.
Donc, est-ce que la barrière de la langue est un problème?
Probablement, pour Manon, plus pendant les interviews où il faut vraiment avoir un traducteur et un bon traducteur. Sinon, pour la conversation du quotidien, beaucoup de gens parlent anglais, tout simplement. Les Ukrainiens parlent beaucoup, beaucoup anglais.
C'est même moins dur que dans certaines zones où la population ne parle en général pas du tout anglais. Là, on a quand même affaire à une population européenne et avec une base d'anglais plus qu'honorable.
Vous voulez dire qu'en Afghanistan, par exemple, ça n'était pas comme ça?
Par exemple, en Afghanistan, ne pas parler d'Ari est un vrai handicap. En Ukraine, on peut quand même se débrouiller. Effectivement, ça ne dispense pas d'un vrai traducteur pour faire des interviews efficaces. Mais pour se débrouiller au quotidien, les gens baragouinent quand même plutôt bien anglais.
Et Manon parle d'Ari, moi je ne parle pas d'Ari, je parle anglais. Donc ça va.
Comment est-ce qu'on concilie l'empathie que l'on ressent pour les Ukrainiens qui sont les agressés dans cette guerre et l'impartialité nécessaire pour faire son métier de journaliste?
Je pense que cette question-là, on se la pose à chaque conflit qu'on couvre. Donc Alvaro depuis plus d'années que moi, mais moi ça doit faire 15 ans. Donc d'être spontanément du côté des victimes parce que le cœur vous emmène de ce côté-là, c'est normal. En être conscient, c'est déjà, à mon avis, un bon début et un principe de précaution qu'on doit ensuite s'appliquer, à se dire attention à ne pas être aveuglé par ce phénomène d'empathie dont on mesure en plus qu'il a géométrie variable. Hein. Ce phénomène d'identification, on l'a beaucoup pour l'Ukraine, on l'a beaucoup moins pour l'Afghanistan, on l'a beaucoup moins pour les enfants africains qui meurent en silence de famine. Donc il y a cette impression que ce sont nos voisins qui nous ressemblent et donc on se projette d'autant plus facilement. Ça ne dispense pas d'une distance journalistique hyper importante et d'une vigilance redoublée parce que justement on a conscience de ça.
Alvaro ?
Non, oui, mais je dirais pas mieux. Il faut se fier à son instinct et garder sa distance de journaliste. J'ai pas l'impression d'être submergé par l'empathie et que ça me mène vers des voies qui sont pas les bonnes.
Néanmoins, on peut imaginer que c'est difficile de pas devenir le porte-parole des autorités ukrainiennes. À partir du moment où on est de leur côté, on peut avoir la tentation de répéter ou en tout cas de croire tout ce qu'ils disent.
On n'est pas de leur côté. On travaille du côté des Ukrainiens, mais on n'est pas de leur côté politiquement.
La vraie difficulté, c'est qu'on ne peut pas couvrir l'autre côté. Les territoires qui sont tombés sous contrôle des Russes sont inaccessibles pour la presse. On sait que les journalistes sont des cibles, puisqu'on met à mal les tentatives de désinformation du Kremlin, dont on sait qu'ils sont plutôt assez forts. Par ailleurs, donc, nous, sur place, on s'est posé la question. Est-ce qu'on tente le coup d'aller dans un territoire tombé sous contrôle russe? Et nos interlocuteurs sur place nous ont dit, à la rigueur, une femme, ça, vous pouvez la tenter. Les hommes sont systématiquement déshabillés. On étudie les tatouages, les blessures de guerre pour voir si on a affaire à des soldats ou à des civils. Mon camarade ici présent a des blessures qui s'apparentent à celles d'un soldat. Donc pour nous, on a écarté ça tout de suite. On s'est dit que c'était une prise de risque délirante par rapport au devoir d'informer, certes, mais de pouvoir aussi après rentrer pour pouvoir témoigner. Donc on travaille avec cette frustration, mais qu'on a par exemple sur le conflit avec l'État islamique, on n'a jamais pu aller du côté de l'État islamique. Donc on a l'habitude de devoir travailler sur un camp, et c'est pas pour ça qu'on propose une vision très tranchée, les blancs, les noirs, les méchants, les blancs. Ça, c'est beaucoup plus... Il y a des zones de gris dans tous les conflits, et c'est ce qu'il faut essayer de raconter aussi.
On fait une pause. J'ai encore beaucoup d'autres questions à vous poser.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec Manon Kérouille-Brunel et Alvaro Canovas qui ont fait un grand reportage dans Paris Match sur la guerre en Ukraine. Je leur pose des questions sur les difficultés qu'ils rencontrent pour raconter ce conflit. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose en ce moment, nous qui sommes en France. Et justement, il y a celle-ci. Il y a le fait qu'on a besoin de clichés. Je parle là du public. Hein, quand on nous raconte une guerre, il y a des clichés qui parlent aux émotions, qui rappellent d'autres guerres, d'autres horreurs, d'autres souffrances et qui sont ancrées dans notre mémoire. Est-ce que, alors là je pose la question plus particulièrement à vous, Alvaro qui est photographe, est-ce qu'on peut les éviter? Est-ce qu'on n'a pas la tentation de prendre la photo qui rappelle une autre photo?
Comme je disais, les conflits se ressemblent beaucoup, donc il faut éviter. Oui, mais les scènes se ressemblent, les bombardements se ressemblent et souvent malheureusement les photos se ressemblent. Donc on peut essayer de bouger. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'évoluer, d'aller un peu moins en première ligne, parce que finalement, je me rends compte, après ces années, que je fais souvent un peu les mêmes photos avec des combattants différents, et plutôt essayer de reculer. Et finalement, j'ai plus de choses à raconter, plus de choses à voir, et peut-être je peux éviter certaines répétitions. Mais malgré tout, les angles sont souvent les mêmes, les horreurs qu'on peut voir et qu'on photographie sont à peu près les mêmes.
Manon ?
C'est un peu bizarre de réfléchir en termes de comment être créatif pour raconter la guerre, parce que...
C'est pas ce que je voulais dire, mais c'est comment ne pas, au fond, répéter ce que l'on connaît déjà et dont on sait forcément que ça provoquera la même émotion.
Alors, au niveau des histoires humaines que moi je peux raconter, j'ai quand même l'impression, contrairement effectivement à ce que racontait Alvaro sur la photo, c'est que au moins les gens ne sont pas interchangeables, jamais. Et les histoires, les tragédies individuelles, si on prend un peu la peine de les écouter, de les creuser et de les retranscrire avec les mots de ces personnes, elles ne peuvent pas ressembler, elles font peut-être écho à une souffrance humaine générale, mais l'idée aussi, c'est qu'elles fassent écho au public, enfin, aux lecteurs français qui, comme vous dites, se sent loin et en même temps proche. Donc il faut raconter des histoires individuelles et à la fois universelles, et dans chaque guerre, pour moi, c'est un enjeu renouvelée et j'ai pas l'impression de me répéter en le faisant.
Est-ce que vous n'avez pas la pression qu'il y a une tendance actuelle chez les journalistes pendant cette guerre à se mettre en scène ?
Si, c'est une tendance qu'on peut constater, qu'on peut déplorer aussi. Pour moi, le risque, effectivement, ce serait pas tellement de me répéter, mais de raconter la façon dont moi je vis ou couvre la guerre, alors que le sujet principal n'est certainement pas mes confrères, aussi charmants soient-ils ou moi, mais nous, on fait le choix d'y aller. Et on ne peut pas rentrer quand on veut, à peu près. Donc on a un luxe incroyable. Le sujet principal, ce qui nous anime quand on part là-bas, c'est de raconter la tragédie, la vie de ces gens, pas de comment on vit, nous, sous les bombes, le fait qu'on mange moins bien que d'habitude, qu'on dort par terre. Vraiment, c'est accessoire, tout ça.
Alvaro ?
Non, mais écoute, je suis complètement d'accord. Je trouve qu'on utilise de plus en plus la première personne en mode narratif pour faire des papiers sur les zones de guerre. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que nous sommes volontaires, c'est notre métier. Alors, il arrive des choses pas agréables et même terribles à certains journalistes, mais on est volontaire pour aller sur le terrain, contrairement aux gens qu'on rencontre. Et c'est à eux qu'on devrait se dévouer entièrement dans notre matériel médiatique, journalistique.
Le réseau social TikTok est devenu l'une des principales plateformes d'information sur la guerre en Ukraine, devant Facebook et Instagram. Mais c'est aussi l'une des principales plateformes de désinformation. Alors comment vous les utilisez, vous, en tant que journaliste ?
Ah, vous êtes mal tombé avec nous, je crois. On est un peu des dinosaures. TikTok, ouais. J'avoue, je n'ai jamais utilisé. Je suis même pas sur Facebook. J'ai une utilisation d'Instagram très, très, très limitée.
Vous ne les utilisez pas du tout là-bas, alors qu'il y a des milliers de vidéos qui sortent.
Alors, Telegram marche beaucoup, donc je m'y suis mise pour
l'Ukraine.
Autre
réseau social, crypté.
Voilà, crypté, avec du coup des informations qui ne sont pas forcément diffusées sur d'autres réseaux sociaux plus grand public. Je les regarde, ça permet, mais c'est très bizarre de les consulter quand on est déjà sur place. Donc on a l'impression toujours de rater quelque chose alors qu'on devrait y être puisque c'est encore plus frustrant. Et c'est, je pense, très perturbant et ça peut aussi être contre-productif et nous détourner en fait de l'histoire qu'on est en train d'essayer de raconter. Il faut accepter de ne pas pouvoir tout faire, tout couvrir et se consacrer à un angle et s'y tenir.
C'est vrai que la population ukrainienne est reliée à Internet à 80% à peu près. C'est la première fois qu'on a une guerre où il y a tant d'images. C'est-à-dire que tout le monde fait des vidéos et les postes, on n'a jamais eu autant d'images d'une guerre.
Oui, sans doute, mais ce n'est pas pour autant que nous, journalistes, en tout cas pour nous, on les utilise. Nous, on s'informait effectivement par Telegram sur un compte d'un journaliste ukrainien avec un groupe de journalistes très sérieux, avec des informations vérifiées, etc. On regardait aussi ce que faisaient les confrères, que ce soit des anglo-saxons, des français, pour un peu avoir une idée du terrain, de ce qui se passait, mais surtout ne pas être influencé par des petites vidéos ou des choses comme ça qui pourraient... pas nous influencer, mais nous dévier de l'histoire qu'on a envie de raconter.
Est-ce qu'on reste toujours dans le factuel ou est-ce qu'on en a la tentation constamment de faire des pronostics, de la stratégie, de la tactique ?
Moi, ce n'est pas une tentation que j'ai parce que je n'en suis pas capable. Enfin, je ne suis vraiment pas une experte en affaires militaires ni en armement. Donc, je ne fais pas de pronostics et je pense que ce serait vraiment hasardeux puisque l'histoire est en train de nous prouver que tous les pronostics sont déjoués. Ce qui reste, à mon avis, la matière la plus fiable pour les journalistes, c'est l'histoire humaine, comme toujours. Donc, c'est multiplier au maximum les témoignages, les différentes sources à disposition, s'astreindre à un travail de recoupage quand c'est possible. Et moi, les sources militaires, elles ne sont jamais au cœur de mes papiers ni de mes histoires. Donc, j'avoue que j'ai continué à faire ce que je fais d'habitude. Et il n'y a pas une façon de faire du reportage de guerre qui serait différente d'un autre reportage. C'est les mêmes méthodes, les mêmes techniques et les mêmes exigences qu'on doit appliquer sur tous les terrains.
Alvaro Canavas ?
Alors moi qui aime l'histoire et l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, sans faire de pronostic, à la relecture de Jean Lopez, qui est grand écrivain et historien.
Grand historien, notamment sur la guerre en Ukraine.
La guerre en Ukraine et notamment sur la grande bataille de ce que les Russes appellent Kharkov. Donc nous sommes allés à Kharkiv, où il raconte que pendant 3 ans, l'armée soviétique à l'époque a essayé de prendre cette ville au prix de pertes incroyables. Et on pouvait quand même faire un petit parallèle stratégique sur les lignes d'avancée des Russes aujourd'hui, des Soviétiques à l'époque, qui probablement rencontrent certains obstacles qui sont les mêmes. Et ça, je trouvais ça intéressant.
Je vous remercie tous les deux d'être venus sur Europe 1 pour raconter tout cela. On fait une pause et on se retrouve dans un instant avec Céline Guivarch. C'est l'une des auteurs ou des autrices, comme on voudra, du nouveau rapport du GIEC qui était tant attendu et qui vient de paraître cette semaine.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Bonjour Céline Guivarch.
Bonjour.
Vous êtes ingénieure, vous enseignez à l'École des Ponts, Paris Tech. Vous êtes directrice de recherche au CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Et vous faites partie des auteurs du rapport du GIEC, dont le troisième volet sur l'évolution du climat a été rendu public cette semaine. Il était très attendu. Il a été approuvé par les 195 pays membres du GIEC. Et il fait état des actions nécessaires pour atténuer le changement climatique. Cela implique d'atteindre un pic des émissions de gaz à effet de serre en 2025, dans 3 ans donc, avant de les réduire de 43% d'ici 2030. C'est vraiment possible encore ?
Alors en fait, ce que nous montre le rapport, c'est qu'il existe des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre mondiales, des solutions qui sont des technologies qui sont disponibles aujourd'hui, mais qui sont aussi plus largement des transformations de nos modes de production et de consommation, de nos infrastructures, de nos organisations sociales. Et prises collectivement, ces options-là, disponibles aujourd'hui, sont à même de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre.
Et de limiter donc
dans tous les secteurs, et de nous amener à peu près à une division par deux des émissions d'ici 2030 par rapport à leur niveau d'aujourd'hui.
Et de limiter la hausse des températures entre 1,5 et 2 degrés. C'est si, encore possible.
Si des réductions immédiates et rapides sont mises en œuvre, si ces options sont implémentées à très grande échelle, mais en l'absence d'actions immédiates et extrêmement fortes, cet objectif des 1,5 degrés nous échappera.
Parce que ça implique des changements de société assez radicaux et au niveau mondial. Hein.
Tout à fait. Ce qui compte, c'est les émissions de gaz à effet de serre mondial. C'est ça qui, l'accumulation en fait, dans notre atmosphère, c'est ça qui cause le changement climatique. Et donc, c'est bien les émissions de gaz à effet de serre mondial qui doivent diminuer.
Alors, notre consommation d'énergie fossile, pétrole, gaz et charbon, doit diminuer considérablement puisque c'est la première cause du réchauffement. Or, elle n'a cessé d'augmenter.
Ce que le rapport nous montre, c'est quand même que dans cette décennie, de plus en plus de mesures et politiques sont mises en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans un grand nombre de pays et puis à des échelons locaux aussi, dans des villes. On a les preuves les éléments scientifiques pour conclure que ces mesures et ces politiques ont permis d'éviter des émissions de gaz à effet de serre, mais à l'échelle mondiale, ça n'a permis que de ralentir l'augmentation des émissions.
Mais on fait comment ? On les remplace par quoi ? Le pétrole, le gaz, le charbon ?
Alors on peut prendre, si ça vous va, l'exemple des transports. Dans ce secteur-là, les options, elles passent par différentes choses. D'une part, voir comment on peut éviter ou réduire les distances de certains déplacements. Sur les marchandises, ça veut dire optimiser les chaînes d'approvisionnement pour diminuer les distances, relocaliser certaines choses. Pour le transport de personnes, ça veut dire repenser l'organisation de nos territoires pour que les services essentiels de santé, d'éducation, les commerces soient accessibles dans un rayon plus court. C'est aussi utiliser pour les activités où c'est possible le télétravail, les téléréunions pour éviter des déplacements à très longue distance, etc. Après, il y a tout un volet de solutions qui est de transformer, de rebasculer sur des modes de transport qui sont moins émetteurs ou pas émetteurs du tout de gaz à effet de serre. Donc les modes émetteurs, c'est la voiture et l'avion. Et donc les solutions pour rebasculer le plus possible vers le train, les transports en commun, le vélo et la marche. Et derrière ça, en fait, collectivement, ça veut dire des investissements dans les infrastructures pour que ce soit accessible, pour que le plus possible.
Vous êtes bien placée, Céline Guivarge, pour savoir que ça fait très longtemps que vous le répétez tous et qu'on ne l'a pas tellement fait, même si on l'a fait un peu, c'est vrai. Il nous reste 3 ans, quoi. L'industrie, par exemple, comment on fait ?
Alors, mais vraiment, enfin, dans tous les secteurs, il y a des options comme ça, et on pourrait pendant longtemps les balayer. Je pourrais vous en faire la liste. Ce qui est cette histoire des 3 ans, il me semble que on n'est pas dans une situation où il y aurait une date ou un seuil.
C'est un peu ce que nous dit le GIEC.
Pas du tout, c'est pas ce qui est écrit dans le rapport, c'est une interprétation par les médias. Il me semble que la situation scientifique dans l'état des connaissances qu'on a sur le changement climatique nous disent que on a déjà aujourd'hui des effets du changement climatique qu'on mesure, qu'on observe et qui dans toutes les régions du monde et qui conduisent à des pertes et des dommages. Déjà aujourd'hui à 1,1 degré d'augmentation de la température du globe. Pourquoi ? Parce qu'il y a des événements extrêmes qui sont plus fréquents, plus intenses, parce qu'il y a des effets sur les rendements agricoles, parce que etc. Et que en fait chaque fraction de degré supplémentaire, c'est-à-dire chaque émission de gaz à effet de serre supplémentaire, conduit à des risques supplémentaires, à des impacts supplémentaires qui, à 1,5 degré, seront plus importants, à 2 degrés encore plus importants, et que finalement, c'est plus on va agir vite, plus on va éviter des impacts, plus on va éviter les impacts les plus graves, ceux qui sont les plus complexes à gérer, auxquels on ne pourrait pas s'adapter. Et donc, on n'est pas du tout dans une situation de tout ou rien, où il y aurait un seuil avant lequel tout va bien et après lequel rien ne va plus. On est vraiment dans une situation où chaque émission évitée nous permet d'éviter des risques.
On fait une pause, Céline Guivarge, on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avec Céline Guivarge qui fait partie des auteurs du rapport du GIEC dont le 3e volet sur l'évolution du climat a été rendu public cette semaine. Il fait état, je l'ai dit, des actions nécessaires pour atténuer le changement climatique. Par exemple, les villes. Comment est-ce qu'on fait ? Parce que la concentration de la population dans les villes est un gros problème. Il faudrait les rendre plus compactes. Qu'est-ce que ça veut dire, une ville plus compacte ? Est-ce que c'est la fameuse ville d'un quart d'heure dont on a beaucoup parlé depuis quelques années ?
Exactement. En fait, les villes concentrent les activités, les personnes. Et il y a là une opportunité d'action. Sur l'urbanisme, pour réduire les distances parcourues, il y a aussi des actions pour isoler les bâtiments, pour qu'ils soient confortables aussi bien en hiver qu'en été, sans avoir besoin de consommer beaucoup d'énergie. Et ce qui est important aussi, je pense, sur la question des villes, c'est qu'il y a énormément, il y a des co-bénéfices à agir pour s'attaquer aux sources des émissions de gaz à effet de serre, parce que ce sont aussi la source d'émissions de polluants locaux, notamment de particules fines hein, qui polluent l'air dans nos villes et qui causent des maladies cardiovasculaires, l'asthme ou qui l'aggravent, ainsi que certains cancers. Et donc, on a là une opportunité à la fois de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'améliorer la qualité de l'air dans nos villes et avec des effets immédiats, locaux, sur la santé.
La ville d'un quart d'heure, ce serait une ville où l'on pourrait tout faire à pied en un quart d'heure. Le problème, on le sait, c'est pour ceux qui y travaillent mais qui n'ont pas les moyens d'y habiter. Mais c'est aussi une ville plus compacte avec des groupes d'immeubles de grande hauteur, des tours, très proches les uns des autres. C'est un peu le quartier de la Défense à Paris, mais avec des bicyclettes, de la végétation et des lacs artificiels pour absorber le carbone, ce serait ça ?
Effectivement, de verdir les villes, ça a un effet à la fois qui les rend plus résilientes aux effets du changement climatique et un des effets du changement climatique dans les villes qui est aggravé par l'artificialisation des villes, c'est les canicules hein, et avec l'effet d'îlots de chaleur urbains. Et donc de rendre les villes plus vertes, de ramener davantage de végétation et aussi d'eau au cœur des villes, ça apporte un effet rafraîchissant pendant les canicules. Et puis c'est aussi capter, stocker en fait du CO2 dans la biomasse. Et donc là, on a vraiment des synergies entre l'adaptation à un climat qui a déjà changé et qui va continuer à changer et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Ce troisième volet du dernier rapport du GIEC nous exhorte à arrêter la déforestation, surtout dans les zones tropicales, à arrêter le gaspillage, notamment dans les vêtements, à modifier notre régime alimentaire aussi.
Sur les régimes alimentaires, alors bien sûr, dans certaines régions du monde, la question c'est la sécurité alimentaire, la sortie de la pauvreté, et ça ne se pose pas du tout. Dans d'autres régions du monde, et dont on fait partie ici en France, d'adopter des régimes alimentaires qui sont moins carnés, c'est une option pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, en l'occurrence de méthane. Dû à l'élevage.
Est-ce qu'il faut changer nos comportements sur Internet, sur nos téléphones portables, sur nos ordinateurs, sur nos réseaux sociaux? Internet, c'est le plus gros consommateur d'électricité au monde, juste après la Chine et les États-Unis, et ça double tous les 4 ans, paraît-il.
Alors, la consommation d'énergie du numérique, d'une façon générale, est importante. Il y a là aussi des leviers pour réfléchir aux usages et puis aux équipements pour qu'ils soient efficaces énergétiquement et puis qu'ils soient durables, etc. Il me semble, je voudrais revenir sur cette idée de modifier les comportements et d'actions individuelles. Et ce que montre le rapport... de façon extrêmement claire, c'est que cette question de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas que de la responsabilité de l'individu et les comportements aussi vertueux qu'ils soient sont qu'une petite partie de la solution. On parle véritablement de transformation des façons dont on produit, de nos infrastructures. Et ça, c'est des actions qui sont collectives, pour lesquelles on a besoin d'investissements, on a besoin de politiques publiques à tous les échelons, depuis l'échelon des communes jusqu'à l'échelon national et même l'échelon international, pour organiser la solidarité internationale et les financements internationaux sur ces questions-là. Donc voilà, il ne s'agit pas de mettre toute la responsabilité sur les épaules des individus, c'est bien une question collective qu'on attend, nous.
D'ailleurs, les 195 pays membres du GIEC ont approuvé le rapport. Espérons que maintenant, ils vont en tenir compte.
Tout à fait. Maintenant, c'est dans les mains de tous les décideurs, à tous les échelons, et y compris les individus, de s'emparer de ces solutions et de les mettre en œuvre.
Merci Céline Guivarch. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche au CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. On se retrouve dans un instant avec Vincent Duluc. On va aborder un petit tremblement de terre dans le football et qui est dû à Kylian Mbappé.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Bonjour Vincent Duluc.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes journaliste à l'Équipe, spécialiste du football, auquel vous avez consacré de nombreux livres, pour lesquels je vous ai reçu souvent sur Europe 1. Kylian Mbappé, la star du football français, a refusé de participer à des opérations commerciales de l'équipe de France. Alors, ce qui pourrait passer pour un caprice de star n'en est pas un. C'est un acte réfléchi, me semble-t-il. J'ajouterais presque révolutionnaire.
Oui, c'est en partie vrai, la sincérité est complètement présente dans sa décision. Ça peut déborder un petit peu aussi sur le problème du droit à l'image individuelle par rapport au contrat collectif et de la manière dont l'équipe de France peut imposer le choix de ses partenaires à ses joueurs, ce qui a toujours existé. Mais dans le cas-là, effectivement, il y a quelque chose de nouveau et qui se fait jour parce que la marque Kylian Mbappé est aujourd'hui à peu près aussi puissante de manière individuelle que la marque collective d'équipe de France. Il a désormais ce levier-là. Et ce qui est vrai, c'est que le clan Mbappé a fait remarquer à juste titre qu'il avait refusé à titre personnel certains partenaires que l'équipe de France voulait lui imposer. Et ça touche notamment les sociétés de Paris que Kylian Mbappé n'a pas auxquelles Kylian Mbappé n'a pas envie de s'associer, clairement.
Oui, il faut comprendre, il faut bien comprendre que chaque joueur, au moment de sa première sélection en équipe de France, signe un contrat l'obligeant à participer aux opérations commerciales. De cette manière, il cède son droit à l'image, et pour longtemps, hein, jusqu'à 5 ans après sa retraite. Et ça rapporte beaucoup d'argent à la Fédération française de foot, plus de 100 millions d'euros par an. Hein.
C'est un peu le problème, c'est qu'effectivement, le joueur perd le contrôle de son image pour le temps où il joue en équipe de France. Mais cet argent-là fait fonctionner le football français d'une manière générale. C'est-à-dire que la Fédération française de football ne pourrait pas fonctionner sans l'argent de l'équipe de France, que ce soit les droits commerciaux ou les droits télévisés. C'est un argent qui ruisselle quand même, il faut le dire objectivement, vers le foot amateur, sans doute de manière insuffisante, mais qui ruisselle néanmoins. Donc la position d'Mbappé pose des problèmes à la Fédération française. Mais effectivement, on ne va pas le faire passer pour un syndicaliste, parce qu'on va dire qu'il a... Il a des rémunérations qui l'exonèrent un petit peu de ce statut. Mais c'est vrai qu'au moins, il est en train de faire mener une réflexion qui peut déboucher sur un nouvel ordre, on va dire, publicitaire et commercial à l'échelle de l'équipe de France.
Oui, parce que le risque, c'est que les marques, si elles ne sont pas certaines d'avoir des stars comme Mbappé, risquent de ne plus vouloir faire affaire avec l'équipe de France.
Tout à fait, mais à ce moment-là, dans la mesure où l'engagement est automatique et collectif pour les joueurs de l'équipe de France, on peut quand même estimer presque normal que peut-être un noyau de joueurs de l'équipe de France participe au choix des partenaires. Alors évidemment, les services commerciaux et marketing de la fédération vont s'arracher les cheveux, mais ça me paraît quand même nécessaire. Le clan Mbappé a été très marqué après l'Euro 2021 l'été dernier. On se souvient qu'Kylian Mbappé avait raté le dernier penalty fatal dans la séance de tir au but contre la Suisse qui avait éliminé l'équipe de France. Et le clan Mbappé a été très marqué que 8 ou 15 jours après, la société Intermarché avait utilisé l'image de Mbappé, ainsi que son contrat avec l'équipe de France lui a donné le droit, pour faire la publicité d'une valise en disant « mais voilà, il rentre à la maison ». Donc en fait, le clan Mbappé, à juste titre, dit « mais on ne peut pas utiliser notre image de manière aussi négative et presque pour se moquer de nous ». Donc c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, c'est pas un caprice récent, pour avoir parlé avec notamment la mère de Kylian Mbappé il y a déjà un an, c'est quelque chose qu'elle pointait déjà du doigt et qu'elle souhaitait résoudre déjà avec la Fédération française de football, mais en vain à l'époque.
Oui, il faut vraiment comprendre le point de vue de Kylian Mbappé, il faut se mettre à sa place. Hein. Il passe son temps, à titre individuel, à refuser des contrats publicitaires avec des marques qui lui déplaisent, qu'il estime incompatibles avec son image ou avec son éthique. Mais ces mêmes marques, une fois qu'elles ont essuyé un refus de sa part, signent un contrat publicitaire avec l'équipe de France, pour moins cher en plus, et Kylian Mbappé est obligé d'accepter.
Oui, en plus, il faut savoir que ces contrats sont collectifs et impliquent effectivement les 30 ou 40 joueurs de l'équipe de France qui, chaque année, sont appelés, mais que dans la réalité, dans l'exploitation par ces marques, on retrouve toujours les 4, 5 mêmes joueurs. Et même s'il y a 2 ou 3 joueurs qui tournent, il n'y a aucune marque qui n'utilise pas le visage de Kylian Mbappé. Donc lui, à chaque campagne, à chaque marque, il se retrouve en tête de gondole, et donc avec des marques auxquelles il s'oppose. Encore une fois, les sociétés de Paris, c'est quelque chose qui veut combattre, et c'est un combat qui existe à l'échelle européenne, puisque très, très récemment, en Angleterre, il a été décidé que les joueurs et les acteurs du foot et les personnalités connues n'avaient plus le droit de faire de la publicité pour les sociétés de Paris.
Oui, en effet. Mais on peut imaginer aussi Antoine Griezmann, autre star du foot français, qui a rompu, on s'en souvient, son contrat publicitaire avec Huawei à cause du traitement infligé par la Chine aux Ouïghours. Imaginons qu'ensuite Huawei passe un contrat avec l'équipe de France auquel Antoine Griezmann soit obligé de se soumettre.
Absolument. C'est pour ça que je pense qu'en fait, il va se créer quelque chose qui ressemble à un nouvel ordre. Et je pense que ça va passer par le bon sens plutôt que par les contrats. D'abord, c'est plus de l'ordre de la convention que du contrat. Et c'est pour ça que Kylian Mbappé a pu quasi impunément s'y soustraire il y a 15 jours à Clairefontaine. Mais effectivement, je pense qu'il va falloir que les joueurs participent eux-mêmes ou aient au moins un droit de veto sur une marque ou de ne pas s'associer à une marque. Je pense que la solution, c'est peut-être que les joueurs soient contraints, ils ont quand même une responsabilité collective vis-à-vis du football français, soit contraint de, on va dire, de représenter 80% seulement des marques choisies par la fédération, quelque chose comme ça.
Mais ce qu'il y a de nouveau, plus généralement, Vincent Duluc, c'est que les stars du football aujourd'hui ont une éthique personnelle qu'ils défendent sur les réseaux sociaux. On ne peut plus leur faire ou leur faire dire ce qu'on veut. Mbappé crée un précédent, mais qui risque de changer beaucoup de choses.
Oui, mais effectivement, on voit bien que les footballeurs ont une conscience et affichent désormais cette conscience, que cette conscience fait partie de leur image. Ça aussi, c'est une image qu'ils vendent. C'est pas voilà. Mais c'est quand même aussi le phénomène qui apparaît clairement, c'est que maintenant tous les joueurs sont des PME, même plutôt parfois des très grandes entreprises. Et que l'individualisation du football aujourd'hui aussi concourt à ce nouveau phénomène. C'est-à-dire qu'avant, les joueurs n'auraient pas osé se soustraire comme ça au devoir collectif, mais que désormais, on va quand même dire qu'on est dans une société où l'individu prime un peu sur le collectif, et que c'est aussi ça qu'on retrouve en ce moment quand même.
Est-ce que dans les autres pays, c'est pareil ?
Mais ça a toujours existé. Alors les grands anciens se souviennent ou ne se souviennent pas que dans la célèbre finale de la Coupe du Monde 1974, Pays-Bas-Allemagne, Johan Cruyff, qui était le grand joueur des Pays-Bas, était le seul à avoir un maillot à deux bandes, alors que toute l'équipe jouait avec les trois bandes d'Adidas, parce qu'il était sous contrat avec Puma. Donc c'est quelque chose quand même qui n'est pas nouveau, et c'était pas tout à fait pour des problèmes d'éthique personnelle, c'était juste pour des problèmes de contrats publicitaires personnels.
Mais le fait que les stars du football, grâce aux réseaux sociaux, sont devenus leurs propres médias, au fond, là aussi, ça change des choses. À partir de ce moment-là, ils peuvent s'affirmer, y compris politiquement, d'ailleurs. Là, je ne parle pas de la campagne présidentielle, dont il nous est interdit de parler, mais plus généralement, sur le plan politique, aujourd'hui, les stars du foot, comme les stars d'autres sports, sont prêts à s'exprimer, ce qu'on leur interdisait autrefois.
Tout à fait. Aujourd'hui, ils peuvent le faire encore une fois de manière individuelle. Alors, c'est vrai que Kylian Mbappé, par exemple, s'est jamais vraiment exprimé politiquement. Mais en revanche, depuis qu'il a 16-17 ans, ses parents lui-même ont cherché à maintenir une image. Alors, il ne veut pas s'associer à des fast-food parce qu'il a une fondation qui veut s'occuper aussi de la malbouffe. Il ne veut donc pas s'associer non plus aux sociétés de Paris. Sur le problème politique, on va dire intérieur, on ne les entend jamais. Mais en revanche, je trouve que sur les problèmes internationaux, on les entend beaucoup plus. Ils essaient de peser. Vous avez cité effectivement l'exemple d'Antoine Griezmann avec son sponsor chinois au moment de l'affaire de la Tennis Woman. Et c'est quelque chose qu'on a retrouvé beaucoup aussi avec l'envahissement de l'Ukraine. Alors le football ne résout jamais rien. Mais c'est parfois rassurant de voir que ces acteurs s'emparent un peu de ces problématiques. En Angleterre, par exemple, les joueurs continuent encore maintenant de mettre un genou à terre au coup d'envoi dans le cadre de la campagne Black Lives Matter. Et je trouve qu'aujourd'hui, on ne pourra plus jamais, sans doute, décider en fait à leur place.
Merci Vincent Duluc. Je renvoie à la lecture de vos prochains articles dans l'équipe
Europe 1.
C'est arrivé, cette semaine est terminée. On se retrouve demain matin à 9h pour 2 heures d'émission demain. Et dans un instant, vous avez rendez-vous avec Pierre de Villeneuve et les grandes voix d'Europe 1. Bonjour Pierre.
Bonjour Frédéric. Et comme vous le disiez, il nous est interdit de parler de l'élection présidentielle. Donc on va parler beaucoup de politique extérieure, notamment de cet événement tragique en Ukraine hier à Kramatorsk. Est-ce que c'est une nouvelle gradation dans la stratégie militaire de Vladimir Poutine? On parlera du Mali avec les mercenaires de Wagner, maintenant qui font la loi sur place, et puis de cette multiplication des attaques terroristes en Israël.
Eh bien, bonne émission.
Merci.